Bonjour, nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle leçon sur le livre des juges. Alors, on va aborder quelques thèmes intéressants de ce livre qui est très instructif. Alors, on va regarder d'abord sa signification générale et sa leçon spirituelle, ses leçons spirituelles. On va regarder aussi le phénomène du livre qu'on pourrait décrire comme étant la spirale cyclique et descendante. On va aussi examiner le caractère d'un des juges du livre, soit le personnage de Gédéon. Et on va aussi regarder un écho néo-testamentaire, donc un écho du Nouveau Testament, concernant le même livre qui nous en parle un peu. Alors, avant d'entreprendre notre étude, on va constater qu'Israël a connu 4 grandes périodes historiques. C'est intéressant de regarder ça de cet angle-là. On n'est pas habitué de le faire. Mais l'histoire d'Israël est comme divisée en grandes périodes. La période familiale, qu'on pourrait dire. Donc, c'est de la naissance d'Abraham aller jusqu'à la mort de Joseph en Égypte, qui est répartie sur une période de 400 ans. Ensuite, c'est suivi de la deuxième période, qui est la période tribale. Donc, de la mort de Joseph à l'exode de l'Égypte, qui est aussi une période de 400 ans. La troisième période est celle qu'on pourrait appeler la période théocratique. Donc, c'est de l'exode à Saül, qui a été le premier roi d'Israël, qui s'étend aussi sur une période de 400 ans. Et la quatrième et dernière, c'est la période monarchique. Donc, monarchique, c'est les rois. Donc, de Saül à Sédécias et l'exil, une autre période de 400 ans. Intéressant de noter cela. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est la signification générale du livre et sa leçon spirituelle. Le livre des juges nous démontre la détérioration du caractère moral d'Israël, du refroidissement de son ardeur première, et de sa chute dans un état d'indifférence. Dieu, en soulevant les juges libérateurs, voulait conserver chez son peuple la compréhension que la foi en Jéhovah ou en Dieu, le seul vrai Dieu, était la seule et unique voie de la victoire et du bien-être. Le peuple répondait égoïstement, non par amour et non par devoir. Il accueillait la bénédiction de Dieu comme une mesure de dernier recours dans les circonstances extrêmes. Dieu leur accordait du repos par pitié. Les effets des bénédictions divines étaient non durables. Les Israélites passaient de l'obstination à l'incurabilité. L'échec d'Israël était causé par le compromis. Premier compromis, 2 tribus ennemies s'étaient installées à l'est du Jourdain. Deuxième compromis, ils ne détruisirent ni ne chassèrent les nations que Dieu leur avait pourtant demandé de le faire. Troisième compromis, leur conquête de la terre promise fut incomplète. Il y avait au moins 8 conquêtes des tribus d'Israël qui avaient été incomplètes. Quatrièmement, ils se liguèrent avec les nations. On peut apercevoir ça, par exemple, dans le deuxième chapitre 2, verset 2. Aussi, cinquième compromis, ils se sont mariés avec les nations. Chapitre 3, verset 6. Et sixième, ils sont sombrés dans l'idolâtrie. Septièmement, ils furent humiliés par l'asservissement et la captivité. Nous avons la démonstration de leur incapacité d'apprendre et de leur endurcissement graduel et allant toujours de pire en pire. On voit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18, le Seigneur nous dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'elle et séparez-vous, dit le Seigneur. » Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc le livre nous enseigne que les privilèges entraînent des responsabilités, et que celles-ci amènent de la part de Dieu des punitions appropriées. Nous apprenons également que le péché de présomption est très dangereux. Nous devons aussi retenir que le péché et la souffrance sont indissociables et que la supplication et la délivrance sont également indissociables. Nous devons aussi remarquer l'aspect récurrent des jugements du Seigneur. Récurrent, ça veut dire qu'il revient régulièrement. Deuxième point qu'on va regarder, c'est vraiment la spirale cyclique et descendante. Alors, j'invite ceux qui ont les notes du livre que je rends disponible sur Internet et que j'ai distribué aussi à ceux qui sont intéressés dans l'Église. La structure cyclique, on voit qu'il y a, c'est un peu comme il y a cinq parties, cinq événements qui se suivent l'un l'autre, un entraînant l'autre. Alors, la première chose qu'on voit dans la structure cyclique, c'est que, premièrement, les Israélites adoraient d'autres dieux. Donc, ils pratiquaient l'idolâtrie. Ce qui entraînait le jugement de Dieu qui permettait que des nations viennent les attaquer et viennent les vaincre et les asservir. Et, bien entendu, le peuple étant dans la souffrance, étant dans la misère, ils imploraient le Seigneur de les libérer. Donc, le peuple suppliait Dieu de les pardonner et aussi de les secourir. Et bien entendu, quatrième chose dans le cycle, c'est que Dieu suscitait un juge qui remportait la victoire sur l'ennemi. Et cinquièmement, le juge mourait et la même histoire recommençait. Alors, si on regarde dans le livre des juges, on voit que cette structure cyclique-là, elle vient et revient. Autrement dit, les mêmes choses se répétaient continuellement. Il semble que le peuple n'apprenait pas de leurs erreurs et tout ce qu'ils voulaient, c'est être libérés de leurs souffrances et de leurs misères sans comprendre la véritable leçon que le Seigneur permettait qu'ils aient. Alors, on voit aussi une autre caractéristique de ce cycle-là, c'est qu'il est descendant. Descendant dans le sens que, d'une fois à l'autre, le péché s'aggrave de plus en plus. Il y a une descente morale à l'intérieur de tout cela. Alors, cet enchaînement récurrent de péché, d'oppression et de délivrance est souvent appelé cyclique. Mais cet intitulé peut être trompeur si l'on en déduit, que ces cycles ne mènent à rien ou sont tous équivalents les uns aux autres. En fait, il vaudrait mieux parler de spirale descendante. Les cycles ne se contentent pas de reproduire grosso modo les précédents. On peut au contraire noter une détérioration de la qualité des juges et des effets de leur gouvernement. Alors, un rapide survol des principaux juges va nous permettre de le démontrer. Alors, on commence par Othniel, chapitre 3, versets 7 à 11, qui est le premier juge, apparaît comme le modèle de ce qu'un juge devrait être. Il est suscité par Dieu et revêtu de son esprit. Et il était un grand guerrier vivant de Josué. Il conduit Israël à la victoire, comme l'avait fait Josué. Maintenant, un autre juge, c'est le cas d'Éhud, E accent aigu, H-U-D. Alors, manque plusieurs éléments importants. L'auteur ne nous dit pas que Dieu l'a suscité, comme il l'avait fait pour Othniel. Éhud n'est pas non plus revêtu de l'Esprit de Dieu et il ne juge pas Israël. On sait seulement qu'il est gaucher, très fréquent dans la tribu de Benjamin. Bien que Benjamin signifie en hébreu « fils de ma main droite ». Éhud délivre Israël par la tromperie et la tricherie, et le texte demeure silencieux à propos de la volonté de Dieu et de sa relation avec lui. Passe à un autre juge qui est Déborah. Donc ça va du chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 31. Déborah était prophétesse, tout en étant juge en Israël. Mais en dépit de ses succès et de ceux de Jaël, sa magistrature pose la question de la faillite des chefs masculins d'Israël. La gloire qui aurait dû être celle de Barak et de Sisera revient à une femme. Israël était-il encore capable de produire des combattants qui conduiront les guerres de conquête du pays? La victoire, une fois encore, est moins le résultat d'un exploit militaire que d'une tricherie. Jaël, qui finalement exécute Sisera, n'est ni juge ni prophétesse et n'est qu'à moitié israélite. Plutôt que de chanter les louanges d'une nation qui agit dans l'unité et dans la foi, le cantique de Déborah comprend des malédictions contre les tribus qui ne se sont pas jointes au combat. Le récit anticipe les querelles intestines et la désunion des tribus qui vont finalement atteindre leur point culminant dans les derniers épisodes du livre, dans les chapitres 20 et 21. Un autre personnage, un autre juge, c'est Gédéon, qui était fermier. Ça va du chapitre 6, verset 1, aller jusqu'au chapitre 9, verset 56. Alors, Gédéon met du temps à admettre que Dieu l'appelle à conduire Israël et à répondre favorablement. Trois miracles sont nécessaires pour convaincre un Gédéon réticent. Et son obéissance, lorsque le moment vient, n'est pas à proprement parler courageuse. Il démolit l'autel de Baal et le poteau sacré de son village, comme Dieu l'avait commandé, mais il reste en lui un du lâche et du sceptique, et il le fait de nuit. Bien que Gédéon ait gagné le sobriquet de Jérubaal, qui veut dire que Baal se défende, il finira par succomber au faux culte qui égare Israël. Après la grande bataille, au cours de laquelle les 300 hommes de Gédéon l'emportent sur un nombre bien plus grand par leur obéissance fidèle, Gédéon paraît avoir oublié le but même de l'exercice et mobilise ses réservistes, une armée de 32 000 hommes. Une fois encore, une grande victoire se change en rivalité entre factions et querelles entre tribus et clans. Au-delà de la victoire que Dieu avait promise et donnée, Gédéon mène une vendetta personnelle. Donc l'histoire avait débuté par des préoccupations concernant l'ensemencement des champs d'Israël en vue de la moisson. Gédéon, de son côté, a largement répandu sa propre semence et a 70 fils, dont celui de sa concubine de Sichem. Après la mort de Gédéon, Israël fait à nouveau le mal et l'on s'attend à ce que paraisse un nouveau juge ou libérateur. Mais ce n'est pas le cas. En revanche, Abimélec, fils de Gédéon et d'une concubine, tente de s'emparer du pouvoir. Dieu ne l'a ni suscité ni appelé. Du souci de la croissance des plants et de la moisson qui avait introduit le récit, on passe à la fable de Jotham à propos d'arbres et de buissons. La rivalité entre tribus de l'époque de Gédéon tourne désormais au conflit et au meurtre à l'intérieur même des familles. En dépit du bien que Gédéon fit à Israël, son fils ne devint pas un libérateur, mais un oppresseur. Il ne fut pas un serviteur de la nation, mais un meurtrier d'Israélites et de membres de sa propre famille. On a ensuite le juge Jephté. Alors, c'est le grand personnage suivant du livre. Le récit dépeint avec quelque chose du conflit qui existe en Dieu lui-même à propos de sa relation avec Israël. Les Israélites pêchent et provoquent sa colère, à tel point qu'ils jugent de ne plus les délivrer. Pourtant, il s'est tellement engagé à l'égard d'Israël que les souffrances du peuple le contrarient et l'indignent. Lorsque Jephté entre en scène, Yahweh s'est retiré. Jouant le jeu de son propre intérêt, Jephté parcourt le chemin qui conduit à la marginalité, de la marginalité, c'est-à-dire au pouvoir. Bien que l'Esprit de Dieu soit descendu sur lui pour la bataille contre les Ammonites, Jephté fait un vœu imprudent et redondant, comme si quelque chose de plus était nécessaire à la victoire. Celui qui avait été si calculateur dans son propre intérêt finit par détruire ce qui était le plus cher, sa propre fille, sa fille unique. Une fois encore, une victoire se change en chamaillerie entre tribus et en rivalité régionale. On passe aussi maintenant à Samson, qui est le dernier des grands juges, mais il n'est que l'ombre de ce qu'un juge était supposé être. Il ne se refuse rien et ne maîtrise pas ses appétits sexuels. Son intérêt pour les femmes étrangères devient métaphorique de la condition du peuple d'Israël lui-même, incapable de résister à la débauche après la séduction des dieux étrangers. Bien que, comme Israël, il ait été mis à part pour Dieu dès sa naissance, Samson ne réalisera pas son potentiel. Ses mariages avec des Cananéennes avaient violé l'ordre de les chasser du pays. Comment Samson peut-il accomplir sa mission de chef d'Israël? Il n'y réussit pas mieux que sa mort durant sa vie. Il n'y réussit pas mieux pendant sa mort que sa vie. Alors l'épilogue, si ça va du chapitre 17 aller jusqu'au chapitre 21-25, alors des chefs, comme ces juges, ne pouvaient garantir à Israël la possession du pays. L'intérêt personnel, l'absence de maîtrise de soi et d'autres péchés qui provoquent la colère de Dieu touchent aussi les chefs. L'héritage d'un Israël unifié, tel que l'avait laissé Josué, se désintègre en rivalité de factions et de régions. Dans ces conditions qui favorisent le chaos religieux et politique, une autre sorte de gouvernement est nécessaire si Israël veut assurer la possession du pays. Est-ce que le fait d'avoir des rois ferait une différence? La monarchie apportera-t-elle une solution aux maux religieux et sociaux de la nation? Alors, les deux derniers récits du livre des juges, qui est l'idole de Mica et de la concubine du Lévite, préparent la voie à l'apparition de la monarchie dans la relation d'Israël avec son Dieu. L'histoire se poursuit dans les livres de Samuel et des rois. Donc, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois. On va maintenant faire une brève étude du caractère d'un des juges, qui est celui de Gédéon. On peut dire que de Gédéon, une des caractéristiques de sa personne, c'est une figure pathétique d'incrédulité. On lit par exemple dans Juges chapitre 6 verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Donc on sent qu'il y a de l'incrédulité dans ses propos. On pourrait, bien entendu, étudier avec plus de profondeur les différents éléments de la réaction de Gédéon à la demande que Dieu lui fait de libérer son peuple. Alors, les différents éléments sont les suivants. D'abord, la surprise. Ensuite, l'incertitude. Ensuite, le questionnement. Ensuite, la plainte. Ensuite, la fausse humilité. Ensuite, le manque de ressources. Ensuite, l'hésitation persistante. Et qui ça se termine par la demande d'un signe. Alors, on pourrait prendre chacun de ces éléments-là et réétudier le texte à la lumière de ces différents éléments-là. Mais même s'il était une figure pathétique de l'incrédulité, il était aussi un guerrier valeureux dans l'obéissance. On lit par exemple dans Juges au chapitre 6 au verset 24 qu'il fait confiance en Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, l'éternel paix. Alors, ça dit dans le verset 24, « Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. » Donc, autrement dit, c'est dans l'original, c'est Jéhovah Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. On a aussi, lorsqu'il s'engage dans le combat contre les forces du mal, au verset 25, à 27 du chapitre 6. Dans la nuit même, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'autel de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. On a aussi un autre élément positif dans sa vie, c'est le contrôle par le Saint-Esprit. Alors, on a chapitre 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Autre élément, c'est sa confiance dans la parole de l'Éternel. On le voit, par exemple, dans le verset 15 du chapitre 7 de Juges. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et de son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Alors, on avait parlé d'un écho néo-testamentaire. Donc, autrement dit, c'est que dans le Nouveau Testament mentionne un peu l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament. Alors, quelle étonnante collection d'êtres humains que celle du livre des juges. Étrange héros que ce fermier réticent, cette prophétesse, cet assassin gaucher, ce bandit bâtard, ce nazir obsédé sexuel et autres. Il est facile à distance de relever les marottes et les échecs des principaux personnages de ce récit en spirale descendante. Mais avant que nous n'en tirions de la fierté, Paul nous le rappelle. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Avec un mélange d'ignorance, d'obéissance fragile et de motivation confuse, nous avons été comme eux, lavé, sanctifié et justifié par la grâce de Dieu. Malgré tous leurs défauts, nous pouvons apprendre de leur foi, car c'est par la foi que Gédéon, Barak, Jephthé et Samson conquirent les royaumes, exercèrent la justice et obtinrent la réalisation des promesses. On peut lire tout cela dans le chapitre 11, du livre des Hébreux, versets 32 et 33. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Malgré leurs échecs, leur foi ne s'est pas égarée. Ils ont leur place dans la grande nuée des témoins qui nous invite à persévérer et à tourner nos regards vers Jésus. On voit par exemple dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous avons besoin, nous aussi, d'un champion qui combatte pour nous, qui soit suscité par Dieu et investi de son esprit. Nous avons besoin aussi d'un chef qui nous assure l'héritage que Dieu a promis et qui mène notre foi à sa perfection. Alors, on a trois applications qu'on peut tirer de cette très brève étude du livre des juges. Première application, comprenons la sévérité de Dieu afin de nous éviter des jugements qui soient cycliques et descendants. Deuxième application, apprenons à faire une confiance absolue à notre Dieu et à sa parole en toutes circonstances. Troisièmement, méditons et rendons grâce pour la merveilleuse patience et la miséricorde de notre Dieu à notre égard. Que son saint nom soit loué, béni et exalté par sa grâce et pour sa gloire. Amen.